voulais parler de Giacometti. Puisque ah bah oui, Roger Blin,
parce que j'ai encore, oui, parce que j'ai encore dans les fesses la paille de la chaise de cuisine sur laquelle il m'a fait asseoir pendant 40 et quelques jours pour faire mon portrait. Il ne me permettait ni de bouger, ni de fumer, un peu de tourner la tête. Mais alors, une conversation de sa part, tellement belle.
C'est vrai qu'il existe un portrait d'un dessin de Jean Genet par Giacometti, qu'on peut voir au Musée d'Art Moderne de Paris, au Centre Pompidou. Peut-être que c'est à cette séance de pause-là que Genet faisait référence dans cette archive. Le savez-vous, Agnès Van Nouvang?
Oui, alors c'est une rencontre qui est très très importante pour lui. Sartre, dont on parlait, présente Giacometti à Genet. On est en 1954 et Genet pose entre 54 et 57. Il y a plusieurs portraits. Et comme Giacometti pensait souvent qu'il ratait, on a comme ça entre 7 et 9 tableaux de Genet par Giacometti.
Et donc, il faut quand même dire que Genet n'est pas seulement le grand écrivain qu'on connaît, publié dans la Pléiade, le grand dramaturge entré au répertoire de la Comédie française. Il a aussi écrit plusieurs textes de critique d'art qu'on a peut-être un peu plus oublié quand même.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a deux grands textes. L'un est consacré à Rembrandt, qu'il admirait immensément, et l'autre est consacré à Giacometti, qui s'appelle L'atelier d'Alberto Giacometti, et c'est, à mon sens, l'un des plus beaux textes de littérature sur l'art moderne.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que, au fond, enfin, Funès avait cette phrase qu'il écrit dans une lettre à l'artiste Léonore Fini. Il dit la chose suivante, il dit: je ne puis dire la vérité qu'en art. Et cette phrase, elle me paraît importante parce que, au fond, qu'est-ce qu'il raconte? Il veut dire que, ce qui l'intéresse chez Rembrandt et Giacometti, ce qui le touche, c'est deux choses. C'est la solitude immense et c'est la blessure du sujet qui va lui permettre, qui va l'inspirer profondément pour créer. Et c'est un texte éminemment personnel au fond. C'est un texte très. Il parle de lui. Il ne cesse de parler de lui quand il parle des tableaux de Rembrandt ou de ces sculptures immenses qui sont seules. C'est un geste et puis une démarche qui ne fait qu'évoquer sa vie, sa trajectoire, son destin.
On va revenir là-dessus. Il y a aussi un troisième texte, alors c'est pas des arts plastiques, mais c'est un texte de critique d'art. C'est Le Funambule, où là, il parle de son amant, Abdallah, qui était funambule précisément. Et il en parle comme il parle d'un artiste, puisque c'est un artiste du cirque.
C'est un très beau texte également qui est régulièrement joué. Je pense au spectacle de Préjocage il y a quelques années. C'est une sorte de texte. C'est pas qu'on peut le comparer à ces textes liminaires, comment jouer le balcon, comment jouer le paravent, comment jouer les bonnes, etc. Mais c'est une réflexion aussi théorico-littéraire sur la danse. Sur l'équilibre et puis sur la création, pour en parler. Et c'est un texte, et c'est quelqu'un qui était important pour lui, qui cet homme qu'il a aimé, cet amant
Abdallah, qui est mort aussi,
qui est mort absolument. Donc c'est aussi une autre blessure dans son histoire, un trou, une béance.
Oui. Alors il y a le cinéma. Vous avez cité tout à l'heure le film que Genet a réalisé lui-même, dont il était scénariste. Et puis il y a eu des adaptations aussi, Pompe funèbre par Pierre Grimblat dans son film Arrestation d'un tireur des toits, mais aussi le fameux Querelle de Brest de Fassbinder. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le rapport de Genet au cinéma? Est-ce qu'il les aimait d'ailleurs, ces adaptations-là? C'est pas sûr.
Alors, je ne sais pas. Mais en revanche, ce que j'explique dans mon essai, c'est que le cinéma, c'est une, évidemment, on pourrait se dire, c'est une autre forme d'écriture pour un écrivain. Mais chez Genet, c'est plus compliqué que ça. Il a eu l'occasion de réaliser plusieurs, enfin, il aurait pu réaliser plusieurs films. Il n'a jamais, il a toujours échoué dans ça, et le seul film qu'on connaît, donc c'est donc Un chant d'amour. Le cinéma, ce film-là, c'est un film muet. Et c'est un élément important parce que ça dit la chose suivante, ça dit que le cinéma pour lui, c'est ce qui s'inscrit au-delà des mots, au-delà du dialogue, au-delà du son, parce qu'il n'y a pas de musique, rien. Et une autre forme de langage qu'il recherche, une autre forme de narration. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, si on revoit le film, c'est l'enchaînement des plans séquences qui sont très, très, comment dirais-je, très fragmentés à l'image des deux cellules dans lesquelles sont enfermés les deux prisonniers. Donc c'est une forme de narration puissante, sans mots. Oui. Indicible.
Mais vous voyez, vous nous dites plutôt que c'est la vue, la vision qui est primordiale chez Jeunet. Et c'est vrai qu'on aurait aimé beaucoup voir davantage de films de lui, tellement sa prose à lui est visuelle. Et il campe un peu ses personnages comme s'il s'agissait de sculptures. D'une certaine manière, comme Giacometti sculpte avec le bronze, Jeunet, lui, sculpte avec les mots, mais on retrouve quelque chose de similaire.
Complètement. Alors, si on contextualise encore une fois, on s'aperçoit que Le Balcon, qui est une pièce très importante, a été publié en 56 et L'Atelier d'Alberto Giacometti en 58. C'est une période cruciale parce qu'on s'aperçoit que Jeunet, au fond, pense de façon profonde cette question de la figuration. Son intérêt pour ces sculptures solitaires qui marchent, ce que j'appelle dans mon livre le hiératisme de l'image, c'est-à-dire la question de l'immobilité, elle est totalement opérante dans son théâtre. Dans Le Balcon, comme dans Les Paravents, il imagine ses personnages sur des cothurnes de 50 cm, élevés comme des statues immobiles. Et c'est intéressant de voir également que ces figures, elles représentent des fonctions symboliques qu'on retrouve dans notre société, c'est-à-dire le juge, l'évêque, le voleur, etc., etc. Donc, oui. Ce que je veux dire par là, c'est que sa réflexion autour d'image, elle permet de faire une critique de la société.
Alors, par exemple, dans Notre-Dame des Fleurs, il fait poser le personnage d'Alberto, si l'on peut dire, je le cite, « Alberto était immobile sur le bord du chemin, comme s'il attendait quelqu'un, ses deux belles jambes écartées dans l'attitude des colosses de Rhodes, ou peut-être du colosse de Rhodes. » Ça, c'est, de manière très symptomatique, une manière de sculpter un personnage.
Oui, oui, absolument. Là, on voit la concomitance entre lire et puis voir, et puis surtout cette question de la sensation qui est au cœur de son œuvre. On a l'impression de voir Alberto, de le sentir. C'est une écriture qui est extrêmement sensuelle, qui est au cœur de la chair, au cœur du corps.
Alors pourquoi, selon vous, avez-vous le sentiment que c'est la solitude que Jeunet voit en particulier, alors on parlera de Rembrandt après, mais chez Giacometti et dans les œuvres de Giacometti? Parce que d'ordinaire, quand on fait une critique d'un artiste, c'est pas sur ce genre de mots qu'on va s'arrêter. Et là, lui, il écrit un texte qui parle de la solitude. Alors pourquoi, selon vous?
Je pense que c'est ontologique. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup dans L'Atelier d'Alberto Giacometti, c'est la suivante, c'est de Jeunet. Ces sculptures immenses, immuables, preuve fascinante que j'existe, que nous existons dans toute la grandeur de notre solitude. C'est ça qui est important, en fait. C'est cette idée qui est à rapprocher de la mort, au fond. Parce que, pourquoi est-ce qu'il aime tant Giacometti? Parce que c'est le peintre de la métaphysique. C'est cette obsession pour ces morts mal enterrés, pour ces fantômes qui n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître.
Pour ces corps décharnés aussi?
Exactement, ces corps décharnés, ces corps désorientés, ces corps qui n'en finissent pas de mourir quelque part.
Je propose d'écouter un extrait de L'Atelier de Alberto Giacometti.
Il y a 4 ans environ, j'étais dans le train. En face de moi, dans le compartiment, un épouvantable petit vieux était assis. Sale et manifestement méchant. Certaines de ses réflexions me le prouvèrent. Refusant de poursuivre avec lui une conversation sans bonheur, je voulus lire, mais malgré moi, je regardais ce petit vieux. Il était très laid. Son regard croisa, comme on dit, le mien, et ce fut bref ou appuyé, je ne sais plus, mais je connus soudain le douloureux, oui, douloureux sentiment que n'importe quel homme, en Valais exactement ? Qu'on m'excuse, mais c'est sur exactement que je veux mettre l'accent. N'importe quel autre. N'importe qui, me dis-je, peut être aimé par-delà sa laideur, sa sottise, sa méchanceté. C'est un regard, appuyé ou rapide, qui s'était pris dans le mien et qui m'en rendait compte.
La compagnie des auteurs. Alors dans cet extrait de l'atelier d'Alberto Giacometti, il n'est pas question de Giacometti et ça me semble justement assez symptomatique de la manière dont Genet parle de cet artiste en prenant l'exemple de cette révélation qu'il a eue un jour dans un wagon que tous les hommes se valaient. Et ça, il le raconte pour expliquer ce qu'il voit justement dans les sculptures de Giacometti.
Oui, moi, le grand point commun, à mon sens, dans l'écriture de ses essais, donc sur Rembrandt et Giacometti, c'est cette question qu'on pressent également dans cet extrait qu'on a entendu, cette question de l'universalité. Au fond, nous sommes des hommes et des femmes, et c'est la question de la vulnérabilité, de la fragilité. Quand il voit ces figures, il sent que ça tremble. C'est ce tremblement qui nous ramène à une humanité. Nous ne sommes que nous sommes mortels, au fond, c'est ça.
Et au passage, on reconnaîtrait presque du Sartre, un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui.
Complètement. Tout à l'heure, vous m'avez demandé s'il aurait pu être théoricien. Moi, je dirais que non, mais simplement, il est très frappant de voir qu'il a une approche phénoménologique et puis une approche existentialiste. Et c'est très important aussi parce que, bon, à l'époque, il y a cette espèce d'amitié entre Sartre, Giacometti, Genet, Beauvoir, etc. Et puis Giacometti aussi, on le rapprochait de l'existentialisme, cette idée que nos vies, en fait, que la vie aussi a un impact sur la création, et ça c'est très 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 frappant chez lui, très essentiel.
Dans les sculptures de Giacometti, les plus célèbres en tous les cas, hein, parce qu'il y en a beaucoup des sculptures qu'on n'a pas forcément en tête comme ça, mais ces grandes sculptures effilées, il y a l'idée d'être à l'os, enfin, qu'il n'y a plus que les os. Et il y a ça aussi chez Genet. Et par exemple, il partageait cette absence de besoin de confort. Giacometti comme Genet vivaient tous les deux très modestement. Il y a ça aussi quand même qu'on peut retrouver dans ces accointances entre l'un et l'autre.
C'est vrai, c'est une vie frugale. Genet n'a jamais eu de maison. Ça c'est quelque chose de frappant. Il est mort seul dans une chambre d'hôtel à Paris, dans le 13e arrondissement. Il vivait à l'hôtel avec ses amants, seul. Il était tout sauf matérialiste. Giacometti, lui, de son côté, si on a l'occasion d'aller visiter cette très belle maison de Giacometti dans le 14e arrondissement, on voit également que c'est une vie qui est très simple. Un lit, un atelier, enfin reconstitué évidemment. Et je pense que les deux hommes allaient à l'essentiel, c'est-à-dire peindre, sculpter et écrire.
Alors peindre justement, est-ce que le rapport à Rembrandt est du même ordre que le rapport à Giacometti ?
Alors le rapport à Rembrandt, oui, je pense qu'il y a cette grande question de la vulnérabilité. Vraiment, j'insiste sur ce point.
Mais on voit moins la vulnérabilité quand même chez Rembrandt.
Si. Alors ça dépend. Si on pense au portrait de vieillard, on voit Genet parle dans son essai d'infernale transparence. Il parle d'infernale transparence de la blessure. Il parle de la béance. Et il dit qu'il voit au fond la mort. Il voit la souffrance. Et ce qui l'interpelle, et ce qui nous interpelle en tant que lecteur, c'est l'émotion. Voilà, il cherche l'émotion face à une œuvre d'art.
Alors là, vous pensez peut-être en particulier à ce tableau qui s'appelle Le philosophe en méditation, où on voit en effet un philosophe perdu dans ses pensées, solitaire, éloigné du monde. Et au premier plan, il y a quelqu'un qui alimente le feu et qui lui semble être dans la vie, alors que le philosophe, il est perdu au fond à gauche du tableau. Et puis au milieu, il y a un grand escalier en colimaçon qui semble presque le sujet de la peinture. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, en tout cas selon Jean Genet, de la condition humaine, Agnès Van Ouvan?
Genet, il pourrait être la personne qui attise le feu.
Il est dans la vie, lui, quand même. Ça n'est pas le méditatif, le philosophe au fond du tableau.
Alors, ça peut être les deux, je pense qu'il est réversible. Ça dit la solitude également, ça dit le retrait du monde lorsqu'on crée, lorsqu'on regarde ce monde. Dans son texte sur Rembrandt, il y a cette très belle phrase qui est la suivante, qui parle de l'émotion. Il dit « Il y a mon émotion devant les tableaux de Rembrandt. Qu'est-ce que donc ça? Pourquoi ça? Qu'est-ce que ces peintures dont j'ai tant de mal à me désembourber? Ce qui me bouleverse, dit-il, c'est la bonté forte du sujet. » Hein, c'est cette espèce d'humanité, d'extrême humanité. C'est la craquelure du sujet. Ces personnes qui sont sur le point de se briser. Et c'est en ça que qu'on comprend mieux sa passion, son acquaintance pour à la fois Rembrandt et Giacometti. Giacometti dont il disait qu'il était le seul artiste qu'il admirait.
Oui. Donc la bonté, c'est ça au fond qui touche profondément Genet, et peut-être qu'il se demande comment faire pour avoir une vie qui soit une vie de bonté dans un monde où on ne nous laisse pas, peut-être, je ne sais pas qui serait ce « on », avoir une vie bonne et faire soi-même le bien autour de soi.
Alors Genet, figure de la bienveillance, je ne suis pas sûre.
Si vous parlez de bonté quand même.
Oui, c'est lui qui dit ça. Il parle de la bonté des portraits, la bonté forte des personnages, des figures de Rembrandt. Et il parle également d'infernale transparence de la blessure qui interroge également, je reviens à la dimension biographique, qui interroge ses origines.
Donc c'est lui-même qu'il voit dans les peintures de Rembrandt, dans les sculptures de Giacometti.
Je pense que c'est ça. Sa vulnérabilité cachée et dite.
Vous avez choisi de mêler dans un même essai, tiré de votre thèse, à la fois la question du genre et la question de l'art. Pour quelle raison est-ce que ça se rejoint?
Moi, ce qui m'intéressait, avant de faire ma thèse sur Jean Genet, j'ai travaillé sur Hervé Guibert, autour de la question de l'image. Autour de la question de l'image androgyne, et je me suis toujours, cette fascination pour l'image qui est très proche, enfin qui a à voir avec la littérature, l'écriture, et j'ai essayé de comprendre comment il mettait en scène ce dispositif de voir, imaginer, conceptualiser, et c'est la raison pour laquelle je suis tombée entre guillemets dans l'œuvre de Genet. Et c'est d'ailleurs pour quelqu'un qui peut étudier, qui peut écrire sur Genet, quelque chose de très spéculaire, parce qu'il ne cesse, lui, de penser ce qu'est le théâtre, de penser ce que c'est que le roman. Et nous-mêmes, en écrivant sur lui, on n'en sort pas. Genet, on n'en sort jamais.
Merci beaucoup, Agnès Van Ouvrand. Je rappelle le titre de vos essais à partir desquels nous avons bâti cette émission. Genet et les arts, on vient d'en parler aux Presses du Réel en 2016. Et puis le collectif Genet les revers du genre aux Presses du Réel 2010. Enfin c'est le contraire, le collectif c'est Genet et les arts. Vous êtes également autrice de romans publiés au Mercure de France, Après l'amour, Gabriel et Dans la jungle, le dernier c'était en 2016.